Au nom de la liberté.
Une série documentaire de Radio Zinzine en 8 épisodes.
La liberté, c'est connu, ça.
Oui, oui.
Tous les pouvoirs qu'on a affaire à une lutte interne.
En bout de discussion, on peut faire un sujet avec Radio Zinzine. Est-ce que c'est possible d'en
Radio Zinzine.
Un peu ce que vous êtes en train de vous raconter?
Bah ouais.
Ouais.
Pourquoi bien.
Au nom de la liberté.
Une réflexion autour de la notion de liberté, s'appuyant sur l'expérience du Café des Libertés à Fort-Calquier.
Les prises de son de terrain s'étalent entre janvier et avril 2022.
Épisode 7.
Oui, on était en train de dire, voilà, vraie solution, protéger la biodiversité, stopper les élevages industriels, reprendre la terre aux machines et aux spéculateurs.
Manifestation anti-pass sanitaire, janvier 2022.
D'autant plus qu'on dit bien que la suppression de la biodiversité, oui, la déforestation, tout ça, c'est des choses qui vont nous entraîner vers des multiples pandémies. Parce que tous les barrages naturels qui étaient faits par la nature, eh ben, voilà, ils vont disparaître petit à petit et on s'achemine vers une ère de pandémie. Donc il va falloir vraiment réfléchir à ça. Ça, c'est une chose hyper importante.
Respecter le monde vivant aussi. Oui. Hein. Le monde vivant a besoin d'être respecté. On n'est pas seul sur la Terre, là. Hein. Et c'est grâce aux autres qu'on vit, en plus. Grâce à tous ces êtres vivants.
Dans cet épisode et le précédent, nous approfondissons deux sujets contemporains, réactualisés par la crise du Covid et qui, de ce fait, traversent le mouvement anti-pass.
S'arrêter sur ces sujets est pour nous l'occasion de cheminer dans notre réflexion autour de la notion de liberté. Notre posture est une posture critique qui refuse la simplification. Nous ne cherchons pas à amener des réponses, mais à plonger dans la complexité. Ici, le point de départ est notre inquiétude face à la présence dans les discours de la notion de vivant qui peut recouvrir des valeurs allant des mouvements pro-vie aux nécessaires préoccupations écologiques.
Bien qu'encore présents, nous nous sommes éloignés du terrain, car les enjeux que nous avons choisi de traiter le dépassent, s'inscrivant dans un contexte plus général. Pour éclairer nos questionnements, nous sommes allés chercher des ressources. Ainsi, la présence de paroles venant de personnes extérieures au mouvement s'accentue. Ces apports nous ont permis de poser quelques repères.
La liberté, elle a été associée pendant très longtemps à l'âge moderne au mode de vie urbain.
Aurélien, auteur du livre « Terre et liberté ».
Au fait de vivre en ville, d'être libéré de la terre, des activités paysannes qui étaient la quintessence de ces activités jugées inférieures, méprisables, pénibles, intellectuellement peu intéressantes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'universalisation de ce mode de vie délivré de la Terre, y conduit à transformer la Terre en désert, et qu'il y avait en fait quelque chose d'extraterrestre dans cette aspiration à la liberté. Quelque part, vouloir être délivré des nécessités de la vie sur Terre, c'est vouloir être libéré de la Terre elle-même, c'est vouloir être libéré de notre condition terrestre, c'est-à-dire aussi être libéré de notre corps. Cette conception-là de la liberté comme délivrance, du coup, elle est intimement liée au saccage de la planète.
Au Café des Libertés, il existe une réelle préoccupation pour le vivant, dans les discours, mais aussi dans des actes concrets, tels que la création d'un potager ou encore l'organisation d'une conférence sur le microbiote du sol.
Et ben moi, au Café des Libertés, je défends la valeur, et ben ouais, hein, si pour dire le mot de la liberté, ben voilà, moi je défends pas le libéralisme, je défends pas la liberté pour les blancs, quoi. La liberté que je défends, c'est cette liberté en relation avec ce qui est à l'extérieur de moi, quoi. Donc déjà, en premier lieu, les autres humains. Comment on est libre, du coup, en étant relié aux hommes et relié aux femmes, relié au vivant. Pour moi, c'est important de mettre en parallèle cette notion de liberté avec cette notion du vivant.
Ici, on défend la loi, ici, on défend les gens, on défend la Constitution.
Merlin, initiateur du Café des Libertés.
Et on défend l'être humain, quoi, le vivant. Parce que c'est, il est bien question de ça, que ce soit pour toutes les causes. C'est que le vivant, il est attaqué de tous les côtés. Que ce soit Bannon, ils veulent raser 86 hectares. Que ce soit à la ZAP, où ils veulent construire leur panneau solaire. Qu'on essaye de légitimer son existence à l'aide d'un code barre. Ou d'imposer aux gens le fait que notre corps n'est plus assez développé pour survivre dans un environnement qui serait trop hostile. Alors qu'on est là depuis des milliers d'années, que nos corps s'habituent et que tout ça se fait sans l'aide de monstres de la pharmacie. J'ai conscience que les droits naturels, ils sont encore au-dessus de ça.
Ce que je retrouve aussi dans le Café des Libertés, ces idées qui sont liées au vivant.
Personne alentour ne faisant pas partie du Café des Libertés.
Peuvent me poser question dans le sens où j'ai le sentiment et l'intuition que le vivant serait une forme d'évidence, quelque chose qui nous lierait tous et toutes et qui n'aurait pas besoin de le questionner. Le vivant, ça serait pur, ça serait quelque chose de neutre, voire de bon en soi, une nature bonne en soi, en laquelle il faudrait faire confiance, et que la société des êtres humains serait quelque chose de corrompu. Du coup, il faudrait prendre le parti du vivant absolument. Alors, quelque part, oui, face à la crise écologique, il faut prendre soin de ce qui nous entoure, de notre environnement. Oui, il y a une écologie politique, bien sûr, mais on ne peut pas compter sur le vivant comme une forme de programme politique ou de pseudo-programmes, puisque finalement, il n'y en a pas de programme dans le Café des Libertés. Mais il y aurait quand même une forme d'évidence, de puissance de vie qui serait là, auquel on pourrait se raccrocher. Ça propose finalement pas grand-chose. Ça serait une sorte de laisser-faire total où il n'y aurait pas besoin de se protéger des virus, parce que de toute manière, la nature fait bien son taf.
Manifestation anti-pass sanitaire. Janvier 2022.
Tout le monde s'en rend compte maintenant, au travers du fait qu'il n'y ait quasiment plus de décédés du Covid, même leur variant Omicron, là, qui est très répandu. On l'a quasiment tous chopé, le Covid, et puis on n'en est pas mort. Même si ça a été plus ou moins grave pour certaines personnes, c'est quand même une maladie, un virus qui n'a jamais tué que 0,05% de la population, au-delà de 75 ans. Il y a un moment, il faut revenir à des choses un petit peu cohérentes. Au bout de la vie, il y a la mort. Et ça, il va falloir l'accepter. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire, c'est que la mort n'existait pas.
Une fois, j'ai rencontré des gens du Café des Libertés. J'aurais dit, je vous fais pas la bise parce que je connais Merlin. J'ai dit, je te fais pas la bise parce que chez moi, il y a le Covid et que voilà, je suis potentiellement cas contact. Et un de ses potes qui m'a dit, moi, je te fais pas la bise parce que j'ai une bronchite l'autre jour et on sait jamais. Et j'étais là, oh waouh! Parce que je connais des personnes qui ont perdu leur mère, leur sœur en l'espace d'un mois à cause du Covid et qui sont traumatisées par ça. C'est juste pour dire que c'est comme ça que je me sens en décalage par rapport à un discours de personnes qui vont bien physiquement, qui ont envie de faire la fête, qui ont envie de vivre, qui ont envie de se rencontrer et qui trouvent un super prétexte pour se rencontrer, c'est de lutter contre la répression en cours. Par contre, je suis pas d'accord avec la proposition qui est apportée de la part du Café des Libertés, qui est de s'en foutre complètement, quoi. Tout autant que mon émancipation, j'ai aussi appris ce que c'est que de respecter les personnes qui ne vivent pas la même chose que moi. C'est tout ça pour revenir à cette question de validisme, où je considère qu'en fait, s'il y a des personnes qui ont peur pour leur vie, c'est important parce qu'elles sont malades, parce qu'elles n'ont pas un système immunitaire génial, même si elles sont malades à cause de cette société. Hein. Je veux dire qu'en tout cas, moi, dans le discours d'une grande partie des antipasses, on va dire, parce que je veux pas faire des généralités, mais ce que j'ai ressenti, et ce que j'ai lu, et ce que j'ai reconnu, c'était aussi quelque chose qui s'approche de l'eugénisme, quoi, d'une certaine façon, un côté de toute façon, les maladies, il y en a plein, on en meurt. Le Covid, c'est pas pire qu'une autre maladie.
En travaillant autour de cette notion contemporaine du vivant, on se heurte une fois de plus à une grande complexité. S'il semble indispensable de prendre en compte les préoccupations écologiques dans nos pensées et actions politiques, sacraliser le vivant nous amène à une nouvelle impasse. La liberté perd alors sa dimension émancipatrice, soumise aux diktats de la nature.
l'essentialisme, c'est-à-dire de se référer à la nature comme quelque chose d'absolu et de bien en soi.
Personne alentour ne faisant pas partie du Café des Libertés.
Qui nous gouvernerait d'une forme d'intelligence supérieure auquel il faudrait se référer. Moi, je pense que c'est problématique. Définir un bien en soi, ça fait des réflexes de pensée, de pratique qui sont assez autoritaires, c'est-à-dire qu'il faudrait se référer à cette nature-là, la suivre, suivre ses lois, et que du coup, tout ira bien à partir du moment où on suit ses lois. Mais à partir du moment où on suit des lois qui ne sont pas des lois décidées entre nous et en commun, mais qui viennent d'un extérieur, ça donne forcément des politiques liberticides. Et les problèmes de l'essentialisme, on peut le voir avec le mouvement Rasta, par exemple, qui est hyper homophobe, qui va être contre l'avortement, qui va défendre des choses au nom du vivant, qui sont à l'encontre totale de la liberté.
Au Café des Libertés.
Bah, dans certains cas extrêmes, tu peux pas dire non à l'avortement. C'est une question... Déjà, le corps de la femme, il appartient à la femme, donc c'est à elle de décider. Mais après, il y a tout un contexte, je veux dire. Moi, je suis pour la vie, donc je vais pas te dire que je trouve ça normal d'enlever une vie. Je suis plutôt contre l'avortement. Là, vraiment, l'avortement, la vie, si tu veux, un petit enfant, c'est vraiment... Après, c'est en conscience la femme ou le parent, l'autre parent aussi concerné, qui vont, en leur âme et conscience, accueillir la vie ou pas. Alors que le vaccin, c'est pas synonyme de vie, le vaccin. C'est synonyme de... C'est une technologie, une technique particulière, et voilà, c'est totalement différent pour moi.
Je pense qu'effectivement, il y a un antagonisme de base avec le fait d'être d'un côté absolument pro-vivant et d'être pro-liberté. Et on ne peut pas se référer au biologique comme quelque chose d'universel et de total sur lequel se référer. Il faut mettre en avant les constructions sociales, parce que la construction sociale, c'est ça qui nous donne une marge de liberté, puisque c'est construit. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont là, existantes, nos corps sont là, sont présents, marchent d'une certaine manière, mais on ne peut pas en faire des règles sociales. Et ça, j'ai l'impression que c'est un travers qui existe, encore une fois, dans le Café des Libertés, à certains endroits, et qui correspond avec des formes d'extrême droite dans ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est peut-être pas pour rien que l'extrême droite vient aussi draguer, entre guillemets, et récupérer le Café des Libertés, parce qu'ils ont bien capté ça, qu'il y avait une sorte de filon à exploiter, qui est qu'au nom du vivant, eh ben, en fait, on va défendre un projet social, et ce projet social, ça va être la race blanche, française, la nation française, cette nation cellulaire avec la famille comme base de la nation. C'est les projets, quelque part, les projets pétinistes.
La liberté, selon certaines personnes, comme par exemple Marine Le Pen, là, elle dit vouloir inscrire la préférence française dans la Constitution. La liberté va consister dans le fait de la liberté des citoyens français d'avoir un boulot ou un logement avant les autres, parce qu'ils sont français. Et ça, ça va être compris comme une forme de liberté du peuple français. Donc la liberté compris comme quelque chose de collectif. Alors là, je ne parle pas d'un collectif librement choisi où des gens s'associent, je ne parle pas de l'association des gens pour faire société. Je parle de collectif un peu forcé. Ça peut être une nation, mais ou la race, l'idée de la race, par exemple, qui est une idée d'une détermination des êtres humains. Tu appartiens à une race, tu es déterminé d'être de cette race et d'avoir les qualités de cette race-là, d'être fort, d'être, je ne sais pas quoi, intelligent, comme les racistes définissent les races, etc. Et la liberté, dans ce cas-là, est pensée par des penseurs. Hein. Donc, les penseurs racistes, il y en a plein. Comme la liberté d'exprimer, de vivre cette nature-là. Si on le traduit dans la question du patriarcat, on pourrait dire ce serait la liberté des hommes mâles de vivre leur masculinité, parce qu'ils sont faits comme ça, c'est leur nature. Et par le féminisme, ils vont être réprimés dans leur liberté naturelle.
Si on veut vraiment penser le vivant, je pense qu'il faut y aller à fond. Il faut vraiment essayer de penser qu'est-ce que c'est que le vivant et cette chose-là.
Comment penser alors le vivant pour en faire un véritable allié de nos luttes émancipatrices ?
Aujourd'hui, il y a une autre conception de la liberté qui me semble être dans l'air du temps. Il y a, de manière diffuse dans la société, il y a des aspirations à plus d'autonomie, notamment d'autonomie matérielle. Quand on dit qu'on veut, qu'on recherche l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire ou l'autonomie médicinale, etc., qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire qu'on veut se passer des grandes industries pharmaceutiques, des grandes industries fossiles ou de l'industrie agroalimentaire pour satisfaire nos besoins en alimentation, en médicaments et en énergie. Quand on pense à l'autonomie matérielle, on pense d'abord au fait de faire les choses par soi-même. Une autre dimension très importante de l'autonomie matérielle, c'est la réflexion sur les besoins. Si être autonome, c'est subvenir à ses propres besoins, il faut que ces besoins ils soient en partie limités. Si les besoins ils débordent à l'infini, c'est impossible d'assurer la couverture de nos propres besoins. Ce qui veut dire que l'autonomie matérielle, forcément, implique une réflexion critique sur nos besoins. Est-ce que ce sont vraiment nos besoins ? Est-ce que c'est des besoins qui nous importent ? Ou est-ce que c'est des besoins qui nous sont en partie imposés par des entreprises publicitaires, par le monde extérieur ? Donc il faut réfléchir de manière critique à ses propres besoins et dans une perspective de les limiter. On ne pourra être autonome, subvenir à nos propres besoins, que si nos besoins ne sont pas infinis. Ça va de soi, en fait, dans une perspective d'autonomie, parce que quand on fait les choses par soi-même, forcément, on est dans une dynamique d'auto-limitation des besoins, parce que le premier besoin, ça va être de ne pas passer sa vie à travailler pour satisfaire des besoins toujours croissants, voire infinis. Je pense qu'une conception terrestre de la liberté, une conception ancrée, une conception compatible avec la vie sur Terre, c'est forcément la conception de la liberté comme autonomie.
Penser la liberté comme autonomie, c'est alors penser la liberté comme un espace de choix. Je m'autonomise des mégastructures qui m'oppriment pour ne pas être contraint de les utiliser si celles-ci ne représentent plus mes intérêts ou mes valeurs. Ces mégastructures peuvent être des monopoles, des institutions, des concepts totalisants, comme l'idée de nature dans certaines pensées, ou encore le capitalisme. Vous venez d'entendre l'épisode numéro 7 d'Au nom de la liberté, une série documentaire de Radio Zinzine.